Bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis ravi de vous accueillir à la Galerie Mola ce soir pour la présentation par William Marx de son dernier ouvrage que je qualifierais de critique, La haine de la littérature. Permettez-moi de prononcer quelques mots d'abord pour vous présenter mon collègue William Marx et ensuite de lancer notre dialogue en disant deux ou trois choses à propos de son ouvrage, mais au-delà de son ouvrage, de son œuvre. William Marx est donc, je me permets, je vais peut-être le faire rougir, ce n'est pas mon but, mais c'est, je pense, actuellement l'un des cinq ou six collègues qui comptent, dont on attend les livres. Non, sincèrement.
Hein, c'est pas à moi de le dire.
c'est une réalité, c'est une réalité. Il fait partie de ce petit groupe, hein, moins d'une dizaine de 5-6 collègues qui comptent, dont on lit les livres. On les lit avec plaisir, on les discute. Pour mal parler, il occupe une position forte au sein de l'université française, à partir d'ailleurs de positions théoriques et critiques qui ne sont pas de mode, hein, disons-le. La bannière qui est la vôtre est celle de la philologie, notamment, pas exclusivement, mais celle de la philologie. C'est quelque chose qui ne correspond pas d'ailleurs à la tradition française, plutôt une tradition germanique qu'une tradition française. Et vous ne rechignez pas à vous rendiquer de ce courant. Bon, votre parcours est un parcours brillant. Vous êtes ancien élève de l'École normale supérieure, agrégé de lettres classiques. Je signale, j'ai quelques anciens étudiants dans la salle. William Marx a été classé premier de l'agrégation de lettres classiques en 1989. Vous êtes actuellement en poste à l'Université de Nanterre, hein, Paris 10. Depuis un an, de nouveau, vous dirigez l'école doctorale. Vous l'aviez co-dirigé.
J'avais dirigé.
Vous dirigez.
Non, j'ai repris la direction. Comme j'étais en Allemagne l'an dernier.
Exactement. Voilà. Et donc, pour finir cette présentation, je ne vais pas égrener la liste des distinctions, des grades et des titres de William Marx. Je me permettrai de dire que, au risque d'irriter William Marx, je pense que ce serait réducteur de le présenter uniquement comme un universitaire et uniquement comme un critique. J'ai envie de dire qu'il est l'un des rares lettrés que nous ayons aujourd'hui, dans la mesure où il fait partie de ces personnes qui aujourd'hui se vouent à la lecture et à la pensée, à partir notamment de la lecture des livres, pas de tous les livres, mais des livres qui nous aident à comprendre le monde et son histoire. Et je souhaiterais que le dialogue que nous allons entamer, lui et moi, et ensuite avec la salle, je souhaiterais que ce dialogue lui permette de conserver une bonne image de Bordeaux, une meilleure image de Bordeaux. Non, je dis cela, c'est important parce que...
Je n'ai qu'une excellente image de Bordeaux.
En tout cas, une bonne image du modeste collègue que je suis, dans la mesure où, dans Vie du lettré, William Marx, Vie du lettré a été publié en 2009, William Marx consacre quelques pages, aimables, bien tournées, à une notice d'un tableau qui est conservé et exposé au Musée des Beaux-Arts de la ville de Bordeaux. Ce tableau est de Rolando, vraisemblablement un peintre qui a appartenu à l'atelier de Ribera, à Naples. Ce tableau s'appelle « Le maître et son élève ». Et de toute évidence, la notice était fautive
à l'époque,
quant à l'interprétation à l'époque. Et... si vous reportez la vie du lettré, c'est, je crois, 5 ou 6 pages sont assez savoureuses. Donc, mon ambition ce soir est que William Marx reparte avec une meilleure image des Bordelais.
Ah bah
même si je tiens à dire que je ne suis pas rédacteur des notices des tableaux du musée.
C'est déjà fait, je ne suis pas réparti, mais, mais l'image est excellente. Vous avez un magnifique tableau. Il faut aller voir ce tableau, Le maître et son disciple, au Musée des Beaux-Arts de Bordeaux, attribué à Rwando. Moi, je dirais que je pense qu'il est plutôt de Ribera, tout simplement, parce que de Rwando, on ne sait pas grand-chose. Et c'est un tableau très intéressant, d'interprétation difficile, mais vraiment l'un des chefs-d'œuvre de ce beau musée.
Bien, alors William Marx, j'ai sur cette table, et pour nourrir notre conversation, je n'ai pas tous vos livres, mais j'en ai quelques-uns. J'en ai sélectionné 4. l'adieu à la littérature qui date de 2005, il y a une dizaine d'années, à bien des égards, l'adieu à la littérature et le dernier, la haine de la littérature, sont en dialogue l'un et l'autre. Je vais en dire un mot. En 2009, vous avez publié La vie du lettré, c'est-à-dire non pas de l'intellectuel, non pas de l'universitaire, mais d'une catégorie transhistorique que vous définissez, là aussi, avec beaucoup de comment dire, d'une manière fort agréable, avec une plume fort agréable, avec beaucoup d'érudition, vous décrivez une journée du lettré à travers les textes, et vous le faites toujours, me semble-t-il, avec cette volonté de d'être transhistorique, mais toujours vous situer les textes, les situations, les œuvres que vous commentez. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'oscillation chez vous entre un présupposé qui est transhistorique et en même temps un souci méticuleux de la situation des textes, des œuvres et des hommes et des mouvements. Bien. Alors, il se trouve que La haine de la littérature, votre dernier livre, à bien des égards, c'est un livre, je dirais, d'analyse du discours. Vous ne rechignez pas à ce que je le qualifie ainsi. C'est-à-dire que vous posez que ce qu'on peut appeler la littérature, c'est-à-dire grosso modo 25 siècles de production de textes, que la littérature est un discours. Et que ce discours se définit en permanence, depuis le début, si vous m'accordez la possibilité de faire un sort pendant quelques minutes à un prologue, c'est-à-dire le temps d'avant le temps de la littérature, que la littérature en tant que discours se définit en permanence dans la polémique, dans le combat, avec d'autres discours, qui sont le discours de la philosophie, le discours de la science, le discours de la religion, le discours peut-être de la morale et de la société, et que c'est de cet entrechoc permanent de discours que la littérature se constitue, se transforme, et que, à bien des égards, elle est en but à une haine tenace, puisqu'on lui conteste, par exemple, son autorité. Hein, c'est Platon. Cela commence ainsi, en quelque sorte. La philosophie va déloger la littérature quant à son statut et son rapport à l'autorité. Mais ce combat, ce conflit permet de temps à autre à la littérature de non pas s'épurer, de non pas se transformer, mais en quelque sorte de faire jaillir de ses entrailles de nouvelles formes. Et en ce qui vous concerne, si je vous ai bien lu, vous employez le terme de type. Voilà. Donc, votre dernier livre, c'est celui-ci, c'est les obstacles, les épreuves, les critiques acerbes et violentes qui viennent de l'extérieur du champ littéraire. Et c'est en quelque sorte le prolongement du livre de 2005. Vous aviez abordé les obstacles internes à la littérature, ce qui faisait qu'au sein de la littérature, nous en étions arrivés, après une phase de plénitude, à une phase d'autonomie de la littérature par rapport à la société, ensuite de doute, avec un mouvement charnière, peut-être qu'on peut situer autour de Nietzsche, avec la question d'esthétique, le basculement du modèle pictural vers le modèle musical, et qu'aujourd'hui, le terme que vous employez, l'expression que vous employez, c'est une hyperconscience de la littérature. Je serais tenté, pour parler peut-être comme au XVIIIe siècle, au XVIIe siècle, une hyperconscience de la vanité de la littérature, à la fois de son utilité, de sa fonction sociale. Alors, si vous voulez bien, avant d'aborder les discours haineux à l'endroit de la littérature, est-ce que vous pouvez nous brosser l'âge d'or de ce qui n'était pas la littérature, mais qui relevait d'une voix, je disais, peut-être la voix des dieux, la voix des muses?
Merci pour cette trop aimable présentation, et je dois dire, malgré ce que vous avez dit à l'instant, je suis extrêmement heureux d'être à Bordeaux, d'avoir Bordeaux, c'est une ville que j'aime beaucoup, que je connais malheureusement trop peu. Ce n'est pas parce que j'ai parlé contre un petit cartel d'un tableau du Musée des Beaux-Arts que tout Bordeaux, que je fais une synecdoque et que j'inclus tout Bordeaux dans le cartel. Non, au contraire, c'est une ville magnifique, et une fois que le cartel aura été corrigé, ce qui est peut-être le cas, je m'empresserai de le vérifier demain matin, je suis sûr que Bordeaux sera devenue la ville parfaite qu'elle doit qu'elle doit être, puisque ce petit défaut aura été corrigé. Donc je fais confiance au conservateur du musée des musées des Beaux-Arts. Avant de répondre à cette question, je voudrais effectivement peut-être présenter un peu le... Bon, je trouve que maintenant, je vois là, cette pile de 4 livres qui se sont faits un peu... comme cela, je vois la pile maintenant qui est faite. Un peu, hein, il y a un moment où on se dit, tiens, finalement, il y a quelque chose qui est là. Et je voudrais un peu vous parler, simplement vous présenter mon projet, en fait, de manière générale, mais très rapidement. Les choses sont simples, en fait. Moi, j'ai, depuis ma thèse de doctorat, qui remonte à un certain temps maintenant, une sorte de conscience extrêmement vive de la variabilité de l'objet littéraire, hein, de ce que nous appelons littérature. Et alors, c'est une variabilité dont j'ai eu conscience simplement en regardant l'évolution des idées critiques sur la littérature au XXe siècle. Et puis, peu à peu, dans mon travail, j'ai essayé de mettre en évidence cette variabilité, cette évolution de l'objet littéraire, c'est-à-dire de la façon dont on le conçoit, du statut dont il bénéficie, de son rôle, de ses fonctions, de ses pouvoirs. J'ai eu une conscience de cette variabilité et j'ai essayé d'étudier cette variabilité à travers les siècles. Et j'ai peu à peu élargi l'empan chronologique de cette étude pour montrer de manière claire, pour faire toucher du doigt, effectivement, combien ce que nous appelons littérature est éminemment modifiable, variable, altérable, soumis à des altérations, etc. Et donc, après être parti plutôt du XXe siècle, j'ai, dans la diole littérature, regardé cette évolution sur 3 siècles, du XVIIIe au XXe siècle. Après, bon, le vie du lettré, c'était un peu spécial, c'est un peu, je ne vais pas tout raconter, mais j'ai regardé dans la tragédie, j'ai essayé de voir avec la tragédie grecque dans le tombeau d'Édipe comment, précisément pour montrer cette variabilité extrême, j'ai pris le point quasiment le plus loin qui soit de nous, à savoir une œuvre de l'Antiquité grecque, pour essayer de montrer qu'il y a là quelque chose qui se passe dans ces tragédies qui est foncièrement différent de ce que, a priori, nous appelons, nous, littérature. Et donc, celle-là nous apprend non pas seulement des choses sur la tragédie grecque, hein, ce que j'ai essayé de faire, mais aussi des choses sur nous-mêmes. Hein. Regarder des objets très lointains par le temps ou par l'espace. Je parle aussi du no, hein, du no japonais, dans ce livre. Nous permet aussi de réfléchir sur nous-mêmes. Et c'est là aussi une sorte de méthode que j'ai, hein, à savoir de pratiquer une comparaison qui nous mette nous-mêmes en question.
Si vous me permettez, je voudrais dire à votre public que, notamment dans le tombeau d'Édipe, il y a tout un chapitre consacré au corps que je trouve absolument remarquable parce qu'il y a une analyse de la catharsis qui mérite véritablement qu'on s'y attarde et qu'on la lise crayon en main.
Oui, merci. Effectivement, il y a un certain nombre de réflexions dans le tombeau d'Édipe, et en particulier une sur la catharsis tragique, hein, celle que définit Aristote, et dont je propose une interprétation qui, pour l'instant, me semble, parce que c'est la mienne, hein, me semble la meilleure, et qui a quand même la chance d'être acceptée par un certain nombre de spécialistes d'Aristote et de l'Antiquité grecque. Donc voilà, enfin, jusqu'à nouvel ordre, c'est une interprétation qui vaut peut-être le coup d'aller regarder, effectivement, qui fait la part belle au corps et à quelque chose qui apparemment n'a pas grand-chose à voir avec ce que nous nommons aujourd'hui littérature et qui nous paraît un objet a priori très intellectuel, etc. Or, en fait, les choses dans un autre temps, dans une autre culture, étaient assez différentes. Et puis voilà qu'avec la haine de la littérature, j'essaie là aussi de mettre en évidence cette variabilité de l'objet littéraire. Ce mot de littérature est en lui-même extrêmement récent, comme vous le savez. Il ne date que de 2-3 siècles, hein, réellement dans son usage actuel. Avant, on parlait de poésie, de belles-lettres. Souvent, il n'y avait même pas de nom, hein, pour qualifier ces ensembles de textes, poèmes, récits, romans, théâtres, histoires, essais. Enfin, tout ça, il n'y avait pas de mot général. Bon. Le mot littérature s'est imposé de manière assez récente. Et il m'a semblé intéressant, en fait, de voir quels étaient les discours qui s'opposaient à la littérature. Et en fait, je me suis rendu compte que, bon, on a en tête éventuellement, quand le projet est né, mais c'est peut-être un peu un hasard, une coïncidence, il se trouve qu'il y en était en pleine polémique sur la princesse de Clèves. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les plus anciens parmi vous peut-être se souviennent de cette polémique qui avait été lancée par Nicolas Sarkozy, alors président de la République, contre la princesse de Clèves. On pourra à l'occasion y revenir, même si c'est de cette manière une anecdote qui n'est pas d'un immense intérêt. Mais il se trouve que ça coïncidait, je pense, avec, pour moi, une réflexion sur les discours, sur la littérature, les discours contre la littérature. Parce qu'il me semble qu'en fait, les discours contre la littérature, ce n'est pas Nicolas Sarkozy qui les a inventés, ce serait lui faire trop d'honneur que de dire cela. Mais en fait, on les trouve depuis très très longtemps. On les trouve depuis, en particulier depuis Platon, et même depuis un peu avant Platon. Je cite Héraclite, je cite encore moins connu qu'Héraclite, Xénophane de Colophon, qui n'est pas l'inventeur ni du cellophane ni du colophon. Mais il m'a semblé qu'en fait, on pouvait retracer une sorte d'histoire de ces discours qui sont intéressants parce que ils permettent de mieux définir ce qu'est la littérature. C'est-à-dire que les discours contre la littérature, en fait, sont des discours qui expriment non seulement une agressivité à l'égard de la littérature, mais qui expriment en fait des attentes à l'égard de ce que nous appelons, nous, littérature, mais qui, du temps de Platon, évidemment, ne s'appelait pas littérature, mais poésie, ou n'avait pas de nom, enfin, c'était différent, tragédie, etc., exprime des attentes, exprime souvent une attente déçue, exprime des craintes, des peurs, etc. Donc, en fait, ils définissent en creux cet objet auquel ils s'attaquent. Et donc, ce sont de merveilleux outils pour pouvoir définir des discours qui, à cette époque-là, sur lesquels, à l'époque, on ne propose pas, avant Aristote en tout cas, des définitions précises de ce qu'est, par exemple, la tragédie grecque. Et donc, c'est intéressant d'utiliser ces discours comme outil de connaissance de la variabilité de l'objet littéraire à travers les siècles, puisqu'on retrouve ces discours à travers le temps, à travers les âges. Et alors, il se trouve que, pour mieux faire comprendre comment la littérature pouvait susciter une telle hostilité ? Parce qu'on peut se dire, au bout du compte, mais aujourd'hui, quand on voit... c'était peut-être un peu convenu de dire cela, mais enfin, les écrivains sont des gens tout à fait... Enfin, je ne sais pas, ils viennent très souvent, tous les jours, ici, chez Mola, présenter leurs ouvrages, mais ce sont des gens, en général, très aimables. Quand on les voit à la télévision, quand on les entend à la radio, voilà, ce sont des gens tout à fait charmants. Ils n'ont pas l'air spécialement dangereux. Enfin, il y a de nos jours des gens beaucoup plus dangereux que les écrivains qui exercent leur action à travers le monde. Et donc, attaquer la littérature comme un danger, on se dit, mais ça n'a pas de sens dans le monde actuel. Et il m'a semblé intéressant, pour revenir à votre première question, de proposer une sorte de voyage dans le temps et de plonger le lecteur dans ce qu'était réellement alors la poésie dans l'antiquité grecque la plus archaïque, puisque je me limite à la tradition européenne qui, avec pour ce que nous en connaissons, remonte à la Grèce ancienne au plus loin dans notre tradition européenne. Et donc, j'essaie de montrer comment, en fait, ce que fait un poète grec, Homère, par exemple, lorsqu'il parle de l'Iliade, lorsqu'il parle de la guerre de Troie, eh bien, ça n'a pas grand-chose à voir avec ce que fait un romancier contemporain, au moins dans la façon dont c'est mis en scène. Et effectivement, ce que raconte Homère, ce que met en scène Homère, c'est pas seulement lui en train de raconter la guerre de Troie comme quelqu'un qui invente la guerre de Troie, mais c'est comme quelqu'un qui retrouve ce qui s'est réellement passé à la guerre de Troie, sous les murs de Troie, entre cette bataille entre les Achéens et les Troyens. Il les retrouve non pas parce qu'il le sait, parce qu'il l'a appris par des historiens, par des témoignages qu'on lui a raconté, parce qu'il a fait une enquête, mais il le sait parce que c'est la muse qui le lui raconte. Et il y a au début de l'Iliade, comme au début de l'Odyssée, une invocation à la muse qu'il faut prendre au sérieux. Aujourd'hui, les muses, on ne les prend pas beaucoup au sérieux. Enfin, je veux dire, quand un un romancier dit célèbre dit « je vous présente ma muse », en général, c'est la jeune femme qui se trouve à côté de lui.
Oui, si vous me permettez, c'est la dame de compagnie de l'écrivain.
Voilà, c'est la dame de compagnie de l'écrivain. La muse, dans l'Antiquité grecque la plus archaïque, ce n'est pas cela. La muse, c'est une divinité. C'est parfois une divinité, c'est parfois un ensemble de divinités, mais à l'origine, c'était une divinité qui est celle qui transmet la vérité à ceux qui l'invoquent. Et donc, elle est la garante de la vérité du discours du poète. Et dans une Grèce très archaïque, qui n'est peut-être même pas celle d'Homère, on peut supposer qu'en fait, même Homère, déjà, peut-être n'y croyait qu'à moitié, mais il semble que réellement les discours poétiques s'inséraient dans une sorte de rite religieux où l'on invoque une déesse qui parle ensuite par la bouche de celui qui l'invoque. Et donc on a quelque chose de l'ordre du chamanisme, quelque chose qui a lieu à ce moment-là. Bon. Et donc voilà, si vous voulez, cet état un peu originel de ce qu'était la poésie, pour autant qu'on puisse le savoir à travers les textes. Quand on s'attaque à la littérature, quand on s'attaque à la poésie, quand quelqu'un comme Platon ou comme Héraclite s'attaque à la poésie, il s'attaque à cela. Hein. C'est-à-dire qu'il s'attaque à un discours qui, pour lui, n'a pas de garant autre que cette divinité transcendante qu'on impose. Or, ce que veut faire Platon, ce que veut faire Héraclite aussi, c'est imposer une autre sorte de discours, un discours qui est sa propre garantie dans lui-même par un usage particulier du langage, du logos, hein, de la raison. Et c'est la philosophie qui apparaît à ce moment-là et qui est créée par ses penseurs, par ses auteurs. Mais on ne peut pas comprendre l'agressivité dont quelqu'un comme Platon ou Socrate à l'intérieur de la République en particulier fait preuve à tant d'endroits à l'intérieur de la République contre les poètes si l'on ne se replace pas dans ce qu'était cet état originel. Et il m'a semblé important effectivement de retracer cela au début du livre.
Alors justement à ce propos, j'aurais une question et j'ai besoin de vos éclaircissements. Dans le prologue de votre ouvrage, vous commentez notamment le chant 7 de l'Iliade, le vers 299, je le cite pour le public, « Mais ce chien enragé, je ne peux pas l'atteindre. » Et à bien des égards, je vous ai lu de la manière suivante, c'est que ce vers, Laède, est en train d'inventer l'univers diégétique et la fiction. Parce que jusqu'à ce vers, à travers la voix de Laède, c'est la muse, ce sont les dieux qui parlent. À partir du moment où Laède dit, écrit et dit et prononce « Mais ce chien enragé, je ne peux pas l'atteindre. » Et en fait, il faudrait remonter 80 vers plus haut pour savoir qui est désigné par le démonstratif à valeur déictique. Bon, c'est Hector. Bon, nous sommes en plein univers fictionnel. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est que la naissance de la littérature, si vous me permettez ce raccourci, la naissance de la littérature, c'est en fait quand le logos, quand le discours philosophique entend dénier toute autorité à la littérature, parce que tout simplement, la société grecque constate, non pas observe, mais constate le retrait des dieux. Il me semble que l'invention de la fiction et l'invention de la littérature supposent un retrait tendanciel des dieux.
De façon plus générale, je dirais même que c'est une ce qui se passe. Alors là, ça nous enlacerait dans une histoire de la philosophie ou des origines de la philosophie dans la cité grecque. Mais on peut dire qu'il y avait ce qui se passe au 5e siècle avant notre ère dans les cités grecques. C'est une crise des autorités. C'est une crise d'autorité dans la mesure où il y avait un certain nombre de paroles qui étaient porteuses d'autorité dans la cité grecque. Il y avait d'abord la parole de la loi, hein, le nomos, hein, c'est celle la parole donc qui régit la cité et qui lui permet de fonctionner. Et puis il y a la parole du devin ou de l'oracle, hein, qui est énoncée par les dieux. Et puis aussi la parole du poète, hein, précisément, puisque Homère est présenté comme étant le l'instituteur de la Grèce. C'est ce qu'on trouve, en tout cas, c'est comme ça que Platon le présente, mais toujours pour effectivement peut-être grandir son adversaire. Mais c'est vrai qu'Homère fait partie de l'éducation de base de n'importe quel grec à cette époque-là. Et il y a une crise des autorités et l'apparition des sophistes, de ce qu'on a appelé les présocratiques, et évidemment de Platon finalement à Athènes, correspond à cette crise d'autorité, c'est-à-dire au moment où on veut créer un discours qui permette de retrouver une sorte d'autorité, une autorité fondée sur le logos. Mais auparavant, si vous voulez, il me semble qu'on ne remettait pas, ou de manière beaucoup plus subreptice, l'autorité du poète en cause. Il a fallu que se crée ce discours, qui est ce discours de type philosophique, pour que, d'une manière soudaine, surgisse cet adversaire idéal qui était le poète. Et de cette manière, il n'y a pas de poésie, il n'y a pas de littérature avant que ne se crée un discours autre. Le discours de la loi était à part et jamais Homère ne prétend rivaliser avec la loi. Mais réellement, là, il y a une lutte entre deux types de discours. Un discours philosophique naissant et puis un autre discours auquel il s'oppose et qu'il va rejeter. Et qu'en le rejetant, il lui donne son identité. Ce sont ces poètes, réellement, qui vont être rejetés du côté du domaine de la fiction et non plus du domaine et qui n'appartiennent plus au domaine de la vérité.
Dans votre livre, vous insistez beaucoup pour qualifier et définir ce combat, ce conflit entre les deux discours, le discours philosophique et le discours littéraire. Et vous soulignez que l'enjeu est politique. C'est une lutte pour le pouvoir.
C'est une lutte pour le pouvoir, parce que de toute façon, en Grèce, comme dirait Jean-Pierre Vernant, tout est politique. Enfin, dans les cités grecques, il s'agit de savoir qui va pouvoir régir la cité, qui les citoyens vont pouvoir suivre. Et quand ce n'est pas les citoyens directement, c'est le tyran, qui n'est pas au sens moderne du terme, mais c'est celui qui l'autorité, qui dirige l'individu seul, qui dirige la cité, qu'il va falloir convaincre. Et Platon va essayer soit de convaincre ses concitoyens athéniens, ça ne va pas très bien réussir, parce que Socrate, du reste, avec Socrate, ça n'avait pas très bien marché, donc il ne va pas tellement trop... pas tellement essayé, mais en revanche, il va essayer de convertir en particulier Denis à Syracuse, en Sicile. Donc il s'agit chaque fois d'exercer le pouvoir, mais réellement de l'exercer. C'est-à-dire que quand Platon va essayer d'avoir l'influence la plus grande, et voilà. Et pour cela, il faut s'installer, et donc il faut se créer un adversaire à sa mesure, et cet adversaire à sa mesure, ce sera la littérature. En fait, le livre s'intitule maintenant « La haine de la littérature ». Je pense que c'est un bon titre, parce que c'est un titre que je dirais que je n'ai pas inventé. Je ne suis pas le premier à avoir écrit un livre qui s'intitule « La haine de la littérature ». Zola l'avait fait avant moi, et Zola reprenait en fait une expression de Flaubert. Flaubert, étendu sur son fauteuil, s'exclamait « La haine de la littérature, la haine de la littérature », dans une sorte d'agacement à l'égard de cette bourgeoisie qui s'opposait à cette littérature que Flaubert, lui, prétendait incarner. Et dans le roman expérimental, Zola a intitulé l'un de ses chapitres « La haine de la littérature », à proprement parler. Alors là, il y avait un chapitre intitulé « La haine de la littérature », là, vous avez le livre. J'ai fait mieux que Zola, de cette manière, plus long, en tout cas. Mais même le chapitre de Zola, j'en parle, il est fort intéressant. Mais à l'origine, le livre, j'ai toujours eu en tête de l'intituler d'abord « L'antilittérature ». L'antilittérature, c'est un thème que j'emploie parce que ces discours contre la littérature ne relèvent pas tous de la haine en fait. La haine, ça exprime une sorte d'émotion et il n'y a pas toujours d'émotion. C'est souvent très raisonné. Et chez Platon, c'est extrêmement raisonné tout cela. Il ne s'agit pas d'instinct primaire qui s'exprime là. Mais il y a de l'antilittérature. Et pour moi, antilittérature, ça fonctionne. Le couple littérature-antilittérature fonctionne comme matière-antimatière. C'est-à-dire que là où il y a de la matière, il y a de l'antimatière toujours. C'est la même chose pour la littérature. Ça, en fait, il n'y a pas de littérature s'il n'y a pas de l'antilittérature pour permettre à la littérature d'exister, pour permettre à la littérature de se constituer. Et ça me semble extrêmement important de voir cela. Et historiquement, c'est comme cela que ça s'est passé à l'origine.
Pour aller dans votre sens, par exemple, je peux faire référence à ce que vous dites de la théorie du classicisme. Dans votre ouvrage, vous soulignez que cette théorie du classicisme est tout droit sortie de la distinction de la littérature et de la vérité. Et vous ajoutez qu'il arrive parfois, c'est votre formule, il arrive parfois à l'anti-littérature de donner naissance à une autre littérature.
Voilà. Et ça m'a paru extrêmement intéressant parce que ces discours anti-littéraires, comme je les appelle, sont en fait des discours fondamentaux pour les écrivains, pour ceux qui s'adonnent à la littérature, parce que ils portent ces discours. Alors ils sont plus ou moins, ils portent plus ou moins, mais ils ont une influence sur l'évolution de la littérature elle-même. C'est-à-dire que les écrivains essaient de répondre à ces objections qui leur sont faites. Alors, souvent, ce n'est pas tout de suite qu'ils répondent, et ils ne répondent pas nécessairement par des discours qui seraient des discours raisonnés, comme je peux le faire moi-même, pour dire que voilà, telle hostilité à la littérature est stupide, que en fait, les choses ne se passent pas comme ça. Mais ce n'est pas comme ça qu'un écrivain, que quelqu'un qui fait de la fiction, qu'un poète, quelqu'un qui fait du théâtre, répond à une objection à la littérature. Comment il répond, de manière générale ? Il répond en écrivant une autre œuvre, un autre roman, un autre type de poème, etc., qui va, d'une certaine manière, contourner l'objection et qui va la rendre caduque, cette objection. Et un exemple très fort, c'est par exemple toute la critique qui a été faite à l'égard de la poésie au XVIIIe siècle, à partir de la fin du XVIIIe siècle, au début du XVIIIe siècle, et qui va se poursuivre au fil du siècle, où on va finalement... Les philosophes, d'Alembert par exemple, mais bien d'autres, vont reprocher à la poésie d'être un art totalement artificiel, insincère, qui ne parle pas de la vérité. Et on retrouve encore cet argument chez Jean-Jacques Rousseau dans l'Émile, où toute la poésie classique va être taxée d'être un pur jeu artificiel, sans rapport avec la réalité, sans rapport avec l'intériorité même du poète, et donc quelque chose de fin, de mensonger, de purement fictif, qui n'a au bout du compte aucun intérêt et qui peut être parfois dangereux. Et en fait, on voit là que en fait, toutes ces critiques adressées à la poésie et aux poètes pendant des décennies vont contribuer à faire paraître un nouveau type de poésie, c'est-à-dire une poésie qui serait une poésie beaucoup plus sincère, beaucoup plus lyrique, beaucoup plus lié à ce que pense réellement le poète, qui ne sera plus un pur jeu de salon, un pur jeu mondain tel qu'on le pratiquait au XVIIIe siècle. Et c'est en fait ce qu'annonce cette critique à l'égard de la poésie. Elle annonce, elle prépare l'arrivée de la poésie romantique, c'est-à-dire réellement d'une poésie où c'est le poète en tant que personne qui s'exprime à l'intérieur même du poème. Et donc, on voit là comment, ici, le discours anti-littéraire, en fait, prélude à une évolution fondamentale de la littérature et de la poésie. Donc, en fait, il y a là un couple qui fonctionne vraiment, je veux dire littérature, anti-littérature, qui fonctionne réellement comme un couple, comme un jeu de dialogue, et qui, en fait, permet à la littérature d'évoluer et chaque fois de contourner les obstacles qu'on lui présente.
Alors, si vous me permettez, parmi les griefs que les différents discours de la société énoncent à l'encontre de la littérature, il y a d'abord le fait que la littérature ne peut pas prétendre à exercer une autorité sur la cité. Et elle ne peut pas exercer la moindre autorité parce que, en fait, elle est du côté de l'imaginaire, de la fiction. Elle n'est pas du côté de la vérité. Bon, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est un reproche continu d'immoralité, de frivolité, de légèreté. Le discours littéraire, le discours poétique n'est pas du côté du sérieux, du côté de la gravité. Bon. Le troisième aspect, c'est que ce discours est un discours de divertissement. Il n'est pas un discours qui permet d'accéder à la connaissance. Bon. Donc, on retrouve les trois critiques principales. Et me semble-t-il, vous venez de le faire, vous avez posé que d'emblée, je dirais, sur les fonds baptismaux de la littérature, ce qui est en jeu, c'est son autorité. Et le conflit est un conflit de pouvoir. Alors on comprend pourquoi aujourd'hui nous sommes sinon confrontés à une fin de la littérature, du moins à une extrême faiblesse de la littérature contemporaine, dans la mesure où celle-ci n'est pas confrontée véritablement à un enjeu de pouvoir et elle n'a guère d'autorité sur la société.
Mmh. Bah, c'est pour ça qu'il a fallu tout ce rappel historique pour montrer ce que la littérature, la poésie, l'écriture pouvaient représenter dans des temps plus anciens. Il est vrai que la littérature a d'autres fonctions. Et dans l'adieu à la littérature, précisément, je faisais ce que j'appelais l'histoire de cette dévalorisation de l'objet littéraire, mais chez la façon dont les écrivains eux-mêmes avaient intériorisé cette idée.
Oui, une sorte d'auto-dénigrement.
D'auto-dénigrement.
À la fois l'auto-dénigrement, mais en même temps de choix esthétiques et poétiques qui sont porteurs en eux-mêmes, je dirais, des modalités d'une extinction de la littérature.
Mmh. Voilà. Et donc, il y a là une sorte de crise permanente dans laquelle se débat la littérature, tout au moins en France, ou dans les pays d'obédience française, si je peux m'exprimer ainsi. Et encore, non, c'est pas tout à fait comme ça. Enfin, du moins en France, voilà. Ce serait un peu différent ailleurs. Où il y a vraiment... les écrivains ont intériorisé cette idée d'autodénigrement. Bon, en même temps, moi, je pense que les choses changent. Et que, bien sûr... sans doute, les écrivains, la littérature doit faire face à un certain nombre d'autres concurrents sur les terrains du divertissement, du plaisir. Il y a la télévision, le cinéma, les jeux vidéo. Il y a, ne parlons même pas de la musique, où là, il y a la concurrence était très forte déjà au 19e siècle pour occuper les esprits, tenir le premier rang parmi les arts. Donc, le terrain difficile, mais malgré tout, la littérature résiste, elle résistera toujours. C'est-à-dire que, au bout du compte, je veux dire, il y aura toujours, quelle que soit sa forme, un art qui utilisera le langage comme moyen principal d'expression. Le langage sans les images, uniquement avec un objet de langage. Et cet art aura toujours, quoi qu'on puisse dire, une place éminente dans la société, dans la façon dont les individus construisent leur rapport aux arts, puisque le langage ayant évidemment dans la construction de la personnalité humaine et dans la construction sociale ayant une place fondamentale, l'art qui utilise le langage, art difficile évidemment, beaucoup plus difficile que beau. À certains égards, bien plus difficile que bien d'autres, puisque le langage, a priori, ne sert pas d'abord à faire de l'art, mais sert d'abord à s'exprimer il y a une utilité beaucoup plus pratique. Mais l'art du langage, qui est un art très direct, très facile, en plus qui se répand très facilement, puisque les textes se transmettent sans aucune médiation. Hein, et ça, je trouve ça absolument merveilleux. Je veux dire, à l'école, si vous voulez faire connaître à des élèves la beauté, vous pouvez bien sûr les emmener dans un musée, mais voir de beaux tableaux. Mais il faut y aller pour voir, parce que les tableaux, les reproductions ne remplaceront jamais, ou les reproductions de sculptures ne remplaceront jamais les œuvres d'art elles-mêmes. Mais si vous leur faites lire un poème de Baudelaire, en revanche, ils n'ont pas besoin de le lire en Pléiade, ils n'ont pas besoin de le lire dans une édition originale, ils n'ont pas besoin de lire sur le manuscrit de Baudelaire lui-même, mais le moindre édition de poche ou sur un écran peut, si le poème est bien expliqué, si on leur montre bien, peut leur servir à leur faire toucher du doigt cette beauté-là. Donc il y a là une immédiateté de l'objet littéraire, une façon de transmettre quelque chose et d'être reproductible à l'infini sans aucune perte d'information et sans aucune perte de pouvoir, qui est absolument sidérante et qui fait que la littérature occupera une place toujours, alors entre guillemets, parce que là, on ne sait pas sous quelle forme, mais occupera toujours, un art du langage sera toujours là. Il y aura toujours quelque chose qui sera fait du langage, qui ne sera pas l'usage pratique, le plus quotidien du langage, qui sera autre chose.
Ce que vous venez de dire m'intéresse beaucoup, parce que dans tous vos livres, votre conclusion n'est jamais fermée, elle est ouverte. Vous pouvez dresser des bilans extrêmement sévères, ça vous arrive quelquefois, mais vous n'en concluez pas moins à la possibilité d'un rebond, d'une continuité. Peut-être pas à l'identique, mais tel le phénix, la littérature est morte, vive la littérature. Et je trouve, je vous lis, vous le voyez, je vous lis, mais donc je n'ai pas été étonné. Un lecteur qui vous lirait d'un peu plus loin pourrait être étonné sur ce que, à propos de ce que vous dites, par exemple, concernant l'autofiction. Vous n'êtes pas un champion et un grand amateur d'autofiction, mais en même temps, vous voyez là peut-être une possibilité pour que cette littérature, je ne vais pas dire moribonde, mais qui connaît des difficultés, qui connaît une crise, dont l'état même d'existence est un état de crise, de dire il y a peut-être là une voie. Et c'est notamment, pas exclusivement, mais par cette voie-ci, que demain, quelque chose de nouveau, que vous ne décrivez pas, évidemment, qui pourrait décrire le futur, mais quelque chose de nouveau pourrait émerger à partir de là.
Oui, ben, d'abord, ça correspond peut-être à ma nature. Je suis foncièrement optimiste. Mais ce n'est pas seulement cela. C'est-à-dire que j'ai une vision particulièrement héraclitéenne des choses. Je pense que Pantarei, comme disait, écrivait Héraclite, hein, tout coule, tout s'écoule. Et il ne faut pas s'attacher aux formes déjà existantes. Hein. Elles sont forcément amenées à périr. Hein. Il faut en faire déjà, de cette manière, le deuil. Et donc, il faut penser à l'après, alors qu'on ne peut pas prévoir, mais penser que ce qui existe a forcément une naissance. La littérature, en tant que littérature au sens moderne du terme, elle a sa naissance. Pourquoi ne mourrait-elle pas ? Mais j'entends mort, il ne s'agit pas d'un être vivant, donc il n'y a pas ici à se désoler ou à pleurer. C'est juste la transformation, et ça ne se passe pas comme cela du jour au lendemain, ça se passe avec des évolutions lentes. Et effectivement, vous faites allusion à ce que j'écrivais à la fin de l'adieu à la littérature. Il m'a semblé qu'effectivement, cette déconnexion qu'il y avait, qu'on pouvait sentir dans une certaine littérature entre dans la pointe la plus avancée, en particulier du roman français, une sorte de déconnexion entre la littérature, la fiction et le réel, où le roman se prenait juste comme une sorte de pur objet de langage, en fait, tout cela pouvait trouver une évolution dans l'apparition, mais c'était dans les années 90, disons, dans l'apparition de l'autofiction, où on voyait des écrivains, les mêmes écrivains qui avaient pendant un certain temps été des promoteurs d'une vision extrêmement formelle de la littérature, promouvaient une sorte de réapprivoisement, si je puis dire, du réel à travers un objet tout simple qui est l'individu, celui qui parle, celui qui écrit. Et que l'autofiction, c'était une manière donc de réapprivoiser, excusez-moi, le réel, comme un peu comme dans cette politique du petit pas, vous savez, que propose le renard au petit prince, hein, où on dit voilà, et on s'approche peu à peu, et on s'approche là par des petites choses, donc les vies personnelles, les vies intimes, et avant de pouvoir aborder des grandes choses. Et ben, il me semble que le livre L'adieu à la littérature a été écrit en 2005. Depuis, beaucoup de choses ont été faites dans le roman français en particulier, et il me semble que l'histoire récente, depuis 10 ans, 15 ans, hein, du roman, me donne assez raison. C'est-à-dire que réellement, on voit le roman s'attaquer maintenant à des problèmes sociaux, mondiaux, gigantesques. On voit même, c'est ça qui devient assez étonnant maintenant, on voit même des écrivains qu'on a qualifiés de formalistes maintenant s'attaquer à des problèmes absolument politiques, géostratégiques, mondiaux. Et je ne pense simplement à un roman qui vient de sortir chez mon éditeur, celui de Jean Echenoz, Envoyé spécial, hein, qui parle vraiment de questions de géostratégie, de relations avec la Corée du Nord, hein, qui est un danger, et en parle de manière extrêmement informée. Quelque chose qu'on n'aurait pas pu peut-être imaginer de la part d'un romancier aussi subtil, aussi attentif à la langue, hein, que l'est Jean Echenoz. On n'a même pas besoin de Houellebecq, hein, pour parler de problèmes fondamentaux. On peut aussi le faire avec une langue extrêmement, extrêmement travaillée. Donc, il me semble qu'il y a des choses qui se passent et qui font qu'on n'a pas à perdre espoir. Il faut simplement être ouvert, voilà, à ce qui peut advenir.
Alors, si vous permettez une double remarque. D'une part, dans vos livres, d'une manière générale, quand vous analysez le mouvement qui entraîne la littérature vers une mort qui n'est jamais sa mort, vous êtes plutôt sévère à l'endroit de tous les courants formalistes. Vous pensez que le souci de la littérature de conquérir son autonomie par rapport à la société a enclenché un processus de marginalisation de la littérature par elle-même et qu'elle a prêté le flanc aux discours, aux autres discours de la société qui dirigeaient contre elle. C'est la thèse que vous défendez avec beaucoup de force. Bon, il m'a semblé que de temps à autre, parmi, on va dire, les jeunes écrivains français et qui écrivent en français francophone, vous êtes un peu moins sévère à l'endroit de Jean-Philippe Toussaint que d'autres, par exemple. Bon, peut-être pas uniquement parce qu'il l'est chez votre éditeur aussi, pas seulement. Bon, mais il m'a semblé que la façon dont vous parlez de la littérature, comment dire, c'est vous consacrez des livres entiers à faire son éloge. Mmh. Et vous faites l'éloge de la littérature. J'ai envie de citer quasiment la conclusion de votre dernier livre avec ceci qui est absolument magnifique, mais qui a des conséquences.
Je pensais le lire.
Ah, alors, on ne s'est pas concerté.
Voilà.
On ne s'est pas concerté, mais vous écrivez ceci et j'ai envie de vous demander de commenter. La littérature, écrivez-vous, est le discours illégitime par excellence. Mmh. Donc, cela suppose... par déduction, que ce que vous induisez, c'est que à tout moment de l'histoire, au sein d'une société N, il y a un discours illégitime et que la société ne peut pas éradiquer ce discours. Et ce discours-là, on peut l'appeler la littérature.
Voilà, c'est une manière. J'étais confronté à. Comme je vous l'ai dit, c'est très difficile de définir la littérature. Et c'est encore plus difficile pour quelqu'un comme moi, qui a une vision historique, qui essaie de... J'essaie de penser l'impensable, c'est-à-dire une évolution depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Et je suis bien confronté à cette sorte de difficulté, à savoir comment penser une variabilité extrême, mais comment penser ce qui nous permet de penser quand même l'idée qu'il y a une continuité. C'est-à-dire comment penser la continuité sous la variabilité. Qu'est-ce qui permet... Maintenant, rétrospectivement, de dire que ce que faisait Homère, ce que faisait Sophocle, Virgile, etc., c'était de la littérature. Et au bout du compte, il m'a semblé que ces discours contre la littérature, ces discours antilittéraires, nous fournissaient la solution. Ils nous fournissaient peut-être l'une des meilleures définitions possibles. Alors bien sûr, très basique, mais très fondamentale aussi, de ce qu'était la littérature. À savoir que les discours contre la littérature sont toujours des discours d'autorité. Ce sont toujours des discours qui peuvent justifier d'où ils parlent, comme on me disait dans les années 70. D'où parlez-vous ? Qu'est-ce qui vous donne le pouvoir de dire ce que vous dites ? Pourquoi le dites-vous ? Comment pouvez-vous le justifier ? Eh bien, le discours religieux, le discours philosophique, le discours scientifique, le discours pédagogique, tout cela, ils parlent en vertu d'un savoir réel, d'une autorité, qu'ils peuvent justifier et qui est plus ou moins légitime. Enfin, ils peuvent, en tout cas, dans leur système, ils peuvent dire, voilà, j'ai des présupposés, je peux les démontrer, etc. Et, alors, pour la religion, c'est un peu plus compliqué, mais enfin, il suffit, si on a la foi, les choses peuvent fonctionner. Et puis, il y a un discours auquel tous ces discours-là s'opposent, qui est ce discours du rebut, en quelque sorte, qui, lui, n'a pas en lui-même sa propre autorité, mais cette autorité, il l'a... construit auprès de chaque lecteur, alors parfois par des constructions sociales aussi, de l'éducation, etc. Et au bout du compte, c'est un discours qui est toujours, par rapport à ces véritables discours d'autorité, c'est un discours qui est, lui, toujours foncièrement illégitime. Et il m'a semblé que, de certaine manière, le discours d'Homère, lui aussi, Homère avait, on sentait déjà, quand vous lisez l'Iliade, quand vous lisez l'Odyssée, mais on voit ça à chaque époque, mais on voit déjà qu'il y a des moments où Il y a un moment, par exemple, dans l'Odyssée, il y a, Ulysse est prêt, quand il arrive à Ithaque, il est prêt à s'attaquer à Laède qui charmait les prétendants. Et il faut que Laède auquel s'attaque Ulysse dise « Mais attention, Ulysse, je ne parle pas en mon nom propre, je parle, moi, c'est un dieu qui parle, c'est un dieu qui parle en moi. » Donc, déjà, Homère met en scène cette attaque des poètes par le pouvoir, ici. Et il propose une défense par le biais de cet aède, je crois, Démodocos. Et il me semble intéressant qu'au bout du compte, dès l'origine, et on voit cela à tout moment, la littérature est ce qui n'a pas de légitimité en soi, et donc c'est un discours illégitime. Mais c'est cette illégitimité-là qui peut être sa véritable nature. Et donc, il faut l'accepter en tant que tel, il faut accepter la haine de la littérature. C'est vrai qu'on m'a souvent taxé, mais alors vraiment c'est une erreur de lecture absolue, celles et ceux qui auraient pu le faire, en voyant certains de mes titres de livres, l'adieu de la littérature, la haine de la littérature, même le tombeau d'Édipe, il y a un côté un peu mortuaire là-dedans, mais en fait pour moi c'est toujours, chaque fois l'adieu ou la haine ou le tombeau d'Édipe, c'est toujours un point de départ, c'est-à-dire qu'en fait je pars de quelque chose qui a l'air négatif et qui en fait se retourne en quelque chose de positif. Et il y a toujours une positivité du négatif, de ce point de vue-là. Et il me semble qu'effectivement, la littérature, les écrivains sont ceux qui peuvent revendiquer cette illégitimité et la porter en bannière et en être fiers. Et c'est cela qu'on peut revendiquer contre tous les pouvoirs. Et c'est pour cela que les pouvoirs, parfois, ont du mal avec les écrivains et essaient de les censurer parce qu'on essaie de leur retirer une légitimité qu'ils ont de cette manière, mais qui est une légitimité de l'illégitime. Voilà.
Mais alors, je voudrais juste, William Marx, vous poser une question, et pardonnez-moi si je vous ai mal compris. En tant que William Marx, en tant que sujet, en tant que lettré, est-ce que vous-même, vous ne pratiquez pas une lecture fondée sur la réversibilité des thèses? Parce que, à bien des égards, votre thèse académique, elle est consacrée à Paul Valéry et à T.S. Eliot. Ce sont quand même, de mon point de vue, deux immenses écrivains et deux immenses poètes qu'on va qualifier, je vais parler à l'emporte-pièce, de plutôt du côté du travail de la langue, du formalisme, etc. Et quand on vous lit ce que nous faisons, nous vous trouvons parfois un peu sévères avec le formalisme. Et je me demande si, en permanence, non pas par dandysme, non pas par coquetterie, vous n'avez pas ce souci méthodologique et épistémologique de prendre une thèse et de savoir que cette thèse, elle n'est pas, elle n'est pas d'un seul côté, elle est des deux côtés à la fois, et qu'on peut aller de l'un dans l'autre à partir de la même position.
Tout à fait, mais ça correspond à... Je vois que le discours suscite un certain opposition, ça, c'est le... mais c'est comme quoi tout discours est illégitime, même...
Oui, la littérature, le discours sur la littérature suscite la haine de la
rue. Oh, c'était bon, c'est une haine gentille.
Oui.
Oui, en fait, je crois que vous me disiez la question à William Marx, c'est intéressant à William Marx, peut-être pas très intéressant pour le public, ce que je pense vraiment, mais le fait est que, tout à l'heure, je disais... Il y a peut-être deux traits de ma nature, et je suis désolé de parler ici de nature, parce que ça correspond, je ne peux pas penser autrement que... d'une part, je disais que j'étais optimiste, et par ailleurs, je ne peux pas m'empêcher de voir toujours les deux faces d'une thèse ou d'une position. Personnellement, si vous voulez me poser une question sur ce à quoi je crois réellement, moi, je viens de la forme. C'est-à-dire que je suis réellement, j'ai été éduqué là-dedans. J'ai pour Paul Valéry, j'ai pour T.S. Eliot, j'ai pour tous les écrivains formalistes une admiration immense. Et c'est pour moi, c'est le sommet de cette manière de la littérature. Mais ça n'engage que moi. Mais je ne peux pas m'empêcher, par ailleurs, de voir les problèmes que cela peut poser. Il y a une différence entre ma conviction personnelle ou mon goût personnel, et puis les conséquences que je peux voir de telle ou telle conception de la littérature. Et je vois cela pour n'importe quelle thèse. Je veux dire, je suis toujours étonné quand je vois des collègues qui ont des positions très affirmées sur telle chose. Moi, je n'ai jamais de position affirmée, contrairement à ce que je peux être parfois un peu péremptoire, mais en fait, il y a très souvent des concessions, des réserves qui sont imprimées sinon dans la même phrase, sinon dans le paragraphe suivant, ou à la fin du livre, ou différent. En fait, il y a sans cesse la concession, la réserve vient toujours dans la façon dont je pense. Et donc, je suis souvent du même avis que la dernière personne qui vient de parler. Après, je peux réfléchir et avoir une idée différente. Mais je rentre assez facilement dans le discours des autres. Et j'essaie de penser cela, j'essaie de faire un ordre là-dedans. Et cet ordre, c'est un peu cette sorte de dialectique que j'essaie de proposer.
Alors, j'aurais deux remarques. Et la première sera absolument pas irrespectueuse. Mais William Marx, dans tous vos livres, extrêmement sérieux, vous êtes aussi extrêmement malicieux. Et je me permets de vous interroger à propos de l'une des dédicaces de La haine de la littérature. Parce que... pour moi, le paratexte fournit une clé. Donc voilà, il y a le début du livre, les dédicaces, et In Memoriam, Michel Lafon, 1952-2014, et Pierre Ménard, anti-littérateur. Bon, vous êtes très malicieux.
Oui, très malicieux, mais aussi très sentimental. Michel Lafon était un grand universitaire, l'un des plus grands spécialistes de Borges dans le monde et en France. Il a enseigné à l'Université de Grenoble. Il est mort malheureusement très récemment. Il a été emporté très vite, mais c'était un homme absolument charmant et d'une science sur Borges tout à fait étonnante. Et il n'était pas seulement universitaire, mais il avait aussi écrit un roman magnifique. Paru dans la collection Blanche des Gallimard, qui s'intitule, je crois,
Une vie de Pierre Ménard.
Où il reprend ce personnage, vous savez, qu'a imaginé Borges dans Fiction, qui est le titre d'une nouvelle, Pierre Ménard. Vous savez, c'est celui qui réécrit le Don Quichotte, mot pour mot. Enfin, une phrase du Don Quichotte, de Cervantes, mot pour mot. Mais il l'écrit au XXe siècle, simplement en essayant de lui donner un autre sens, évidemment, forcément, que celui qu'avait cette phrase pour Cervantes au XVIIe siècle. Donc, c'est le texte de Borges, c'est l'un des textes les plus forts qu'on ait écrit au XXe siècle sur la littérature, parce qu'il y a une réflexion très profonde de Borges sur la signification de l'œuvre littéraire, la signification de la forme, de l'intention qu'il y a derrière un objet. Donc voilà. Et c'est aussi une véritable défense du projet littéraire. Et donc, pour moi, il m'a semblé très important de réunir, bon, après, de rendre hommage d'abord à cet ami, trop tôt perdu, et de rendre hommage aussi à Pierre Ménard et de les rassembler tous les deux dans ce monde de la fiction, ou des êtres d'esprit virtuel que sont à la fois les personnages de fiction que nous aimons, les Madame Bovary, les Pierre Ménard, et aussi les morts que nous aimons, qui existent par leurs livres, pour certains, et pour moi, qui appartiennent au même nombre. Et ce sont des gens qui croyaient profondément en la littérature et qui sont... Pour moi, la meilleure façon, si vous voulez, de défendre la littérature, c'est d'en faire, c'est d'écrire, c'est d'en lire aussi. Et Pierre Ménard est à la fois une allégorie, pas seulement d'écrivain, mais aussi une allégorie du lecteur, de celui qui réinvestit son propre sens dans les mots qu'il lit. Et je trouve ça aussi très, 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 très beau. Donc, je pense que chacun peut être un véritable combattant aux côtés de la littérature, contre la haine de la littérature, même si je vous ai dit tout l'intérêt, toute la positivité qu'il y avait dans cette haine de la littérature, toute l'utilité qu'il y a, mais en même temps...
voilà, j'ai lu cette dédicace comme étant une indication. La littérature de demain pourrait peut-être emprunter cette voie, parce que avec malice, je conserve mon qualificatif, vous qualifiez Michel Lafon et Pierre Ménard de anti-littérateurs, donc moins... Et moins, ça fait plus.
Voilà. C'était le...
Ma dernière question est celle-ci. Depuis le poète d'avant l'Iliade jusqu'à l'écrivain d'aujourd'hui, Est-ce que, en fait, cette parole qui est toujours une, cette parole et ce discours qui sont toujours illégitimes, est-ce que cette parole et ce discours ne touchent pas au sacré et que l'évolution serait que le poète d'avant l'Iliade, c'est un sacré transcendant et aujourd'hui, c'est un sacré immanent. Mmh. Et que la, le fil directeur qui permet de dire que depuis 25 siècles, nous sommes en face d'un discours qui est un discours littéraire illégitime du point de vue de la société, c'est parce que c'est un discours qui touche au sacré.
Je ne sais pas, le sacré, on le chasse par la fenêtre, il revient, enfin, on le chasse par la porte, il revient par la fenêtre, toujours d'une manière ou d'une autre. Personnellement, je suis très intéressé par le lien qui existe entre, effectivement, les textes littéraires et le sacré, l'appel à une transcendance, à une immanence, la façon dont les textes sont investis de pouvoirs qui ne sont pas nécessairement les pouvoirs dont, auxquels on pense nécessairement quand on pense à la, à la, à la poésie ou au roman, qui sont des pouvoirs de faire vivre une réalité nouvelle, de faire surgir quelque chose, de faire de transformer le monde, de transformer les hommes, de vous guérir, de vous mettre en contact avec autre chose, avec des gens qui sont très loin, de vous mettre en contact avec les dieux, hein, de manière générale, les divinités, les sacrés. Il me semble qu'il y a là des pouvoirs qui sont là dans les textes et qu'on a, dont on les a trop tôt désinvestis. Je veux dire, maintenant, il me semble que, ce serait un truisme que de dire que les problèmes religieux sont très présents aujourd'hui, hein, de plusieurs endroits. Mais je pense que la littérature, les corpus littéraires, peuvent être une réponse à ces problèmes-là, et que la tradition littéraire, investir de grands textes d'une valeur fondatrice, hein, ça peut être une manière de rassembler les hommes, une société, une nation, une cité, et de donner un fondement aussi à une existence, à l'existence sociale ou une existence individuelle. Alors, je ne sais pas si c'est le sacré dont vous parlez, mais il me semble qu'il y a là des pouvoirs qui ont été exploités dans des temps anciens et qui peuvent être réexploités. Et je m'y attelle parfois lors de certaines tribunes pour parler de ce genre de choses, mais il me semble important, hein, de peut-être de réinvestir les œuvres littéraires de pouvoir, de rassemblement en particulier, et d'épanouissement dont on les a peut-être un peu trop rapidement dépouillés.
Peut-être que vous pouvez nous lire une page ou deux,
voilà,
de votre,
oui,
page,
j'avais, vous le souhaitez. J'avais l'intention de vous lire parce que les idées, c'est important. Et dans un essai, c'est très important, bien sûr. Mais un essai, ce n'est pas seulement des idées. C'est aussi la langue, une écriture. J'essaie modestement d'incarner la pensée dans des phrases, dans de la langue, dans des mots, et qui ne sont pas n'importe quel mot. Et j'essaie d'avoir cette attention à la langue. Et je voulais, pour terminer, avant d'entamer la discussion avec vous, je voulais vous lire une page ou deux qui sont en fait la page finale. Donc, il vous restera à lire le début. Mais bon, comme il n'y a pas de suspense tellement, enfin, il y en a un peu quand même. Il y a des moments avec du suspense, mais là, vous aurez la fin, vous saurez que c'est une fin très, très, très positive. Et voilà, ça vous donnera un peu une idée de la façon dont le livre s'écrit. Donc c'est vraiment la conclusion, hein, c'est un peu une sorte de récapitulation de ce qui a été dit auparavant. Toute l'histoire de la littérature occidentale depuis les origines est faite de restrictions et de limitations successives appliquées à la littérature, laquelle se voit régulièrement expulsée des territoires qu'elle occupait jusque-là. Et dans ce processus, l'antilittérature joua un rôle moteur par son effet non tant sur la production littéraire elle-même, que sur la lecture et la réception des textes. Quand les textes sont réputés n'avoir plus ni autorité, ni vérité, ni moralité, et ne représentent plus la société, qui peut-on voir encore ? Des mots, du langage, des phrases, de l'écriture, rien de plus. La littérature serait ce qui reste quand tout a été enlevé, irréductible résidu qui subsiste toujours parce que
toujours, il y a du rebut, du discours dont on ne sait que faire. Mince consolation. Voilà l'histoire officielle, voilà l'histoire apparente de la littérature, celle à laquelle des siècles d'anti-littérature voulurent nous faire croire, celle à laquelle crurent bien des penseurs, bien des critiques jusqu'à aujourd'hui. La littérature serait un usage pur du langage, et l'on parle de fonction poétique, de littérarité, de formalisme. Elle aurait été réduite à son essence. Or, il n'y a nulle chronologie uniformément orientée vers un appauvrissement du fait littéraire. L'histoire passe par des hauts et des bas. Nulle réduction à une quelconque essence, celle-ci n'est qu'illusoire. Sans doute, y eut-il parfois, et y a-t-il encore, volonté d'extirper hors de la littérature toutes les essences possibles, tous les pouvoirs. Mais les œuvres littéraires n'en continuent pas moins à parler avec autorité, à dire une vérité, à proposer des modèles éthiques, à exprimer la volonté et les opinions des individus et des peuples. Elle parle du monde, des hommes, des dieux, de la politique, du cœur et des sentiments, des souvenirs et du futur, de ce qui n'eut et n'aura jamais lieu, de ce qui pourrait tout de même advenir. Elles invoquent les dieux, les font apparaître, transportent dans le temps, dans l'espace et dans l'esprit, soignent les malades, guérissent les possédés, empoisonnent les bien portants, renvoient les riches les mains vides et les enrichissent, renversent les puissants de leur trône et les y maintiennent, élèvent les humbles ou bien les rabaissent. Elles créent de nouveaux univers, de nouvelles cités, renomment le réel, le transforment, l'abolissent, l'idéalisent, le laissent intact. Elles me font exister, m'introduisent dans l'intimité de mon lecteur à mille lieues et mille années d'ici, fondent et détruisent des communautés invisibles comme des amitiés réelles. Elles immortalisent cet arbre nu devant ma fenêtre, ce chant d'oiseau que j'entends au cœur de l'hiver, le bleu froid du ciel, le cliquetis de ce clavier sur lequel je tape avec la frénésie de qui parvient à la fin de l'ouvrage. Elles disent la fatigue et l'énergie, le noir et le blanc, le clair et l'obscur, le bien et le mal, le mou et le dur, le haut et le bas, l'amour et la haine, tout et son contraire. Bref, elles continuent de faire tout ce qui leur fut interdit et refusé pendant des siècles au cours d'infinis procès. Et elles font encore bien davantage, dont on n'a pas la moindre idée et qu'on ne découvrira que beaucoup plus tard, ou jamais. Elles le font comme elles l'ont toujours fait, c'est-à-dire sans légitimité, sans méthode, sans façon. La littérature est le discours illégitime par excellence. Même absurde, même injuste, même anachronique, l'antilittérature affirme l'existence de ce à quoi elle s'oppose. Elle en montre la force et le pouvoir, quel qu'il soit, et lui rend un hommage paradoxal. Bien pire, en effet, que la haine de la littérature serait l'indifférence. Au Dieu ne plaise que son temps n'arrive.
Merci William Marx pour cette lecture. Merci beaucoup pour votre venue à Bordeaux et à bientôt.
Merci.